Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission en compagnie de René-Joseph Irmana, Histoire de France et d'ailleurs. Eh bien, on va retrouver la deuxième partie de Honoré de Balzac en compagnie de René-Joseph. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, on revient pour une deuxième partie, comme indiqué, sur ce personnage immense qui est Honoré de Balzac. Il justifie bien donc une chronique en deux parties. Alors aujourd'hui, on avait abordé l'œuvre la vie du romancier. Bon, je vais continuer en fait pour un petit peu approfondir et puis compléter, notamment sur la fin de vie de Balzac et revenir un petit peu sur son œuvre qui est constituée par ce qu'il a intitulé lui-même et qui est connu sous le titre La comédie humaine, c'est-à-dire c'est un ensemble de tous ces romans et nouvelles qui sont en quelque sorte regroupés et qui forment une sorte de toile d'araignée, puisque tous les personnages, on le sait, se retrouvent d'un roman sur l'autre, voilà. Et ce qui leur donne une sorte de réalité extraordinaire. Ils paraissent plus vrais que vrais, et ils expriment leur époque, notamment le temps de la Restauration, le temps principalement de Louis-Philippe, ces 18 années, c'est cette description de la bourgeoisie, mais aussi des petites gens, voilà. Donc, je reviens un petit peu, notamment sur la rencontre avec Madame Mansca, qui est la maîtresse et épouse, la dernière maîtresse et épouse de Balzac, puisque, en fait, il va l'épouser en mars 1850. C'est une richissime ukrainienne, d'origine polonaise, et il mourra la même année, en août 1850. Voilà. Donc, petit retour arrière sur la biographie d'Honoré. Il est fils donc de Laure et de François de Balzac. Son père est un bourgeois de Tours. Il est fournisseur aux armées, distributeur de vivres, fournisseur, il travaille pour l'État. Il est adjoint au maire de Tours, administrateur de l'hospice. Sa mère, donc c'est Laure. Sa mère, aussi Laure, c'est le prénom. C'est un prénom qui reviendra dans la vie de Balzac. Comme par hasard aussi, parce que sa sœur est née, sa sœur cadette, je veux dire, 16 ans, 16 mois de moins que lui, simplement, et complice, en fait. Ils sont très proches. Elle a le prénom de Laure aussi. Il a un frère et une autre sœur, Laurence et Henri, voilà. Ses parents sont pas très présents, ils sont pas très aimants, peut-être aimants, mais pas très présents, on va dire, dans sa vie. Par exemple, à 8 ans, il rentre au collège de Vendôme, et il va... Il va y rester pendant 8 ans, pendant toute sa scolarité, sans voir ses parents, quoi. Et donc là, il va dévorer des livres. C'est un lecteur frénétique, au point que les pères, les oratoriens donc, du collège, finissent par le renvoyer chez ses parents, parce que sa santé est en cause, sa santé mentale. Donc en 1814, donc c'est la fin de l'Empire, du Premier Empire, les parents s'installent à Paris, dans le quartier du Marais. Il fréquente le lycée de Charlemagne, voilà. Il commence son droit, mais sans aller jusqu'au bout, il travaille dans une étude de notaire. Voilà. Et là, il va enrichir cette expérience parce que dans un cabinet de notaire ou d'avoué de l'époque, eh bien, passent des tas de dossiers, c'est des tas d'histoires, de familles. Et il va s'en inspirer notamment pour son roman Le colonel Chabert. Et alors, à l'étude, c'est un joyeux drille, si on peut dire. Il amuse ses collègues, c'est pas quand même un clerc de notaire très... très appliqué. Et par exemple, le chef de le clerc principal lui annonce un jour: Monsieur de Balzac, nous allons avoir ces jours-ci beaucoup d'ouvrages Donc restez chez vous, voilà. Donc il amuse la galerie un petit peu, voilà. Son père prend sa retraite en 1819 et la famille se retire à Villeparisis. Ils n'ont plus les moyens de vivre à Paris. Et donc, il faut savoir aussi que, par exemple, à Villeparisis, c'est une famille qui est assez originale. Donc ça, ils ont été froids, si vous voulez, les parents avec leurs fils. Mais ils sont fantasques, originaux. Ils amusent aussi un petit peu le patelin, le bourg de Villeparisis. Ils se font remarquer, mais apparemment plutôt sympathiquement, quoi. Et donc le père, on le sait, il s'appelait, c'est un nom choisi, Balzac, hein, donc il a et de Balzac, hein, voilà. Parce qu'ils ont le goût, et le fils aussi, Honoré aura le goût de toute sa vie de l'aristocratie, lettéré par quand même tout ce qui brille, fasciné par la richesse et puis les honneurs, voilà, il faut bien le dire. Et donc, à ce moment-là, vers 1819, il fait son choix, notre Honoré, il décide d'être écrivain, voilà. Et il s'installe dans une mansarde rue Lesdiguières, près du Luxembourg. Et alors là, il a un don de voyance, si on peut dire. Il ressent ça en voyant passer les gens, par exemple. Eh bien, il arrive à deviner qui ils sont, ce qu'ils sont. Une espèce de sixième sens, voilà, une extrême sensibilité. Et donc, ses débuts dans la littérature française médiocre. Il va écrire des romans, ce qu'on appellerait aujourd'hui des romans de gare, hein, des romans de alimentaire, mais pas de grande qualité. Hein. Il travaille lui-même le dit pour les industriels du livre, voilà. Sous des pseudonymes d'ailleurs, Horace de Saint-Aubin, l'ordre de H2ONE. Bon, parce qu'il n'ose pas trop signer par son nom, il sent que c'est pas quand même la grande qualité. Alors, c'est des titres qu'il reprendra par la suite, qu'il publiera. Mais bon, Clotilde de Lusignan, Le Vicaire des Ardennes, enfin Le Droit d'Aînesse, là c'est plutôt un traité de droit apparemment. Voilà. Et puis alors l'histoire impériale des Jésuites, ouais. C'est des œuvres mineures. Hein. Alors à Villeparisis, parce que là j'ai complété cette deuxième partie, parce que j'ai pu rassembler une documentation qui complétait la première, donc ça me permet d'approfondir un petit peu, de découvrir un peu plus du personnage, notamment un numéro d'une revue qui paraissait, qui s'appelait Les Grands Écrivains, voilà, dans les années 70-80. Et donc à Villeparisis, là il a deux histoires d'amour avec Zulma Carco, qui est sont des dames plus âgées apparemment. Zulma est un peu sa conseillère, ça, voilà. Elle joue un peu le rôle de vieux sage auprès de lui. Et puis Laure de Berny. Alors là, elle a 45 ans, lui en a 22 à peu près. Donc c'est en dire aujourd'hui que c'est une cougar, quoi. C'est une histoire d'amour avec une grande différence d'âge. Et elle lui inspire le Lys dans la vallée. C'est toute sa vie, si vous voulez, bien sûr, c'est le cas pour, je pense, la plupart des écrivains. C'est moins, il y a l'imagination, mais il y a aussi l'expérience, le vécu qui nourrit son œuvre. Voilà. Et donc, ça fait scandale quand même, là, parce qu'on a vu qu'ils font figure d'originaux, les Balzac. Mais là, ça fait un gros scandale à l'époque. Hein. On est quand même au début du 19e siècle. Donc, bon, il fuit Bayeux. Et il va vivre auprès de sa sœur Laure, qui a épousé Monsieur de Surville. Voilà. Là, il s'intéresse beaucoup, je l'avais dit, à la physiognomie, ou phrénologie, qui était une science, entre guillemets, enfin, initiée par Lavater, un Suisse. Voilà. Et donc, c'est les traits du visage qui déterminent le caractère. Hein, voilà. Le menton volontaire, le front haut, enfin, et intelligent, voilà. Donc, il s'en inspirera pour ses personnages, hein, voilà, pour lier le moral et le physique, si on peut dire. Donc, Paris, rue Visconti, alors là, il va tenter avec ses œuvres alimentaires. D'ailleurs, à Villeparisis, la famille prêtait la main à ses romans, dits romans de guerre, quoi. C'était à quatre ou six mains, quoi. Voilà, c'était assez sympathique, mais ça ne lui convient pas. Et il préférera arrêter plutôt que de continuer avec ses œuvres, disons, médiocres, hein, même si ça se vend beaucoup à la chaîne, quoi. Et puis, donc, Là, il va faire d'autres expériences. Il voudra s'instaurer homme d'affaires, entrepreneur. Toute sa vie, alors, ce sera des échecs retentissants. Il n'est pas du tout homme d'affaires, des faillites. Il aura 100 000 francs de dette à l'époque. C'est énorme, c'est abyssal. Voilà. Donc, il veut ouvrir une imprimerie. Ça, c'est un échec, une typographie, enfin, etc. Puis, il a des idées tout à fait saugrenues. On le sait, il voudrait acclimater l'ananas en France, le cultiver, rétablir des mines, je crois en Italie, voilà, des mines d'argent, voilà. Enfin, c'est tout ça, c'est des idées, des utopies en quelque sorte, voilà, mais il y croit. Alors là, il a quand même des histoires d'amour, il vise haut dans sa vie sentimentale, et là ça marche puisque il a une histoire d'amour avec la duchesse d'Abrantès, qui est la veuve du maréchal Junot. Et là aussi, elle s'appelle Laure, hein. Voilà, c'est son prénom fétiche en quelque sorte. Il l'appelle Cher Marie d'ailleurs. Donc, sa maison, rue Cassini, près de l'Observatoire. Alors là, c'est un. C'est toujours le grand luxe, hein. Des meubles magnifiques. Et puis alors, lui-même sera un dandy, hein. Il s'habille chez le meilleur tailleur de Paris, enfin, il a une canne au pommeau d'or, sertie de turquoise, enfin, c'est la folie complète, quoi. Il a des chevaux, enfin, voilà. Et ce goût de l'aristocratie, il y a les armoiries dans sa chambre. L'armoirie des Balzac d'Entragues, ce qui sont d'authentiques aristocrates, mais ils n'ont rien à voir avec notre Honoré de Balzac, on sait, puisque c'est un nom, il s'appelait Baïssa, ou je sais pas, voilà. Donc ça lui plaît, l'aristocratie, il est attiré par ça. Et il se voit comme un Napoléon des lettres, voilà. Il y a une maxime écrite sur une. Incrustée dans le socle d'une statue de Napoléon, qu'il a une statuette, où il a écrit, eh bien, ce qu'il n'a pas fait par l'épée, je le ferai par la plume. Donc c'est une ambition, mais justifiée, puisque le génie est là, il sera un Napoléon de la littérature. Et la gloire, enfin, la vraie réussite, alors, va commencer avec Les Chouans, hein, son grand roman, publié en 1829. Ça sera donc le début, qui va signer d'ailleurs de son nom. Là, il a conscience que c'est un chef-d'œuvre, le début de nombreux autres chefs-d'œuvre, puisqu'il y aura plus de 90 romans au total et nouvelles qui constitueront cette comédie humaine. Et Les Chouans, eh bien, il va signer désormais de son nom, Honoré de Balzac. D'ailleurs, le succès sera assez mitigé, mais le succès de librairie, hein, voilà. C'est cette première brique, en quelque sorte, de cette comédie humaine, qui sera constituée de, alors, nombreux romans, presque à la chaîne parfois, mais des chefs-d'œuvre, pas de la médiocrité. Donc, nous allons faire un intermède, qui est un épisode donc, de la vie de Balzac. Enfin, pas de la vie de Balzac, mais d'un roman, à savoir, c'est le Père Goriot. Nous avions diffusé une partie lors de notre première partie de chronique, hein, nous avions diffusé un extrait du film, je pense que c'est le téléfilm de José Dayan sur Honoré de Balzac. Et donc ça se passe à la pension Vauquer, et donc où se rassemblent beaucoup de personnages qui vont se vivre dans les divers romans. Et là, c'est la découverte de Vautrin. Vautrin, c'est un ancien bagnard. Et là, c'est l'épisode, hein, que nous allons vous diffuser. Il a un malaise au cours du repas, dans la pension de famille. Et alors, on va le déshabiller. Voilà. Et là, vous ne le voyez pas, bien sûr, puisque ça apparaît sur les images. Mais on découvre le tatouage qu'on fait aux anciens bagnards, voilà, sur son épaule. Et on va donc là, il va être découvert, si vous voulez, son origine. Donc on vous passe cet épisode. Nous nous retrouvons après ces trois minutes d'intermède.